le nom du personnage. Alors Bruno lui dit Thésée, moi je dis Tsé, parce que je le prononce comme je pense qu'on doit le prononcer à l'africaine, hein, comme Mbappé et non pas Mbappé. Et c'était un petit jeu sur le surnom qu'on donnait à Kabila Père, le tombeur de Mobutu justement, qui se faisait appeler Mzé, en swahili, c'est-à-dire le vieux. Et donc, Mzé, Tzé, voilà, il y avait un jeu comme ça qui me permettait de faire à la fois une référence congolaise et une référence à la pièce de Racine. Et alors, Racine, ça vient, pour expliquer le cheminement, ça vient d'un documentaire d'un documentariste belge qui s'appelle Thierry Michel, qui avait fait un documentaire qui s'appelle Mobutu, roi du Zaïre. Documentaire passionnant en plusieurs épisodes qui retraçait la carrière de Mobutu. Et alors, je ne me rappelle plus si c'était le sous-titre du documentaire où il le disait dans le documentaire, il appelait ça une tragédie africaine. Ça m'avait frappé et je me suis dit, mais évidemment que l'itinéraire, la vie de ce type-là, Mobutu, et du pays qui va disparaître avec lui, le Zaïre, c'est fondamentalement quelque chose qui relève de la logique tragique. Et comme je suis prof de français et que j'ai étudié avec mes élèves le Phèdre de Racine, il m'est venu à l'idée que l'un des personnages de Phèdre, qui est Thésée, donc le père d'Hippolyte dans la pièce de Racine, le mari de Phèdre, qui est donc une figure mythique, une figure de l'épopée qui intervient dans la tragédie et qui est, de mon point de vue, celui qui écrase absolument tout le monde, puisque c'est lui qui condamne à mort son fils, Phèdre se suicide, etc. C'était une figure qui d'une certaine manière, pouvait tout à fait incarner ces dictateurs africains qui, au bout d'un moment, étaient tellement mégalos, avaient un tel orgueil absolu, un tel hubris, diraient les Grecs, qu'ils finissaient par détruire absolument tout, y compris leur entourage. Et donc, petit à petit, l'histoire récente du Zaïre, l'histoire des dictateurs africains, leur folie, leur décadence et leur chute, et un personnage comme Thésée, personnage tragique, personnage épique, finissait par fusionner et fonctionner très très bien ensemble. Et donc j'ai décidé à partir de ce moment-là de reprendre la structure de la pièce de Racine, et en y étant relativement fidèle, hein, c'est-à-dire que il y a évidemment le découpage en cinq actes, la répartition des rôles, etc. etc. J'ai rajouté d'autres éléments qui viennent plutôt de la tragédie antique plutôt que de la tragédie classique, mais j'ai essayé de respecter vraiment toute la dramaturgie classique avec presque toutes les règles des trois unités de vraisemblance, etc. Bon, à l'exception de la bienséance, évidemment, puisque ça se massacre de tous les côtés. Ça a servi de métastructure, en fait, à mon récit. Et du coup, je pouvais y mettre tout ce que je voulais sur ben justement tout ce qu'on disait sur l'histoire du Zaïre, la fin des dictateurs, etc., etc. Et je trouvais que ça fonctionnait bien et je trouve ça assez intéressant de se dire que, d'une certaine manière, le récit tragique qui dit quelque chose pour des spectateurs athéniens du 4e siècle ou du 5e siècle avant Jésus-Christ, qui dit autre chose, mais toujours dans le même fonctionnement pour des spectateurs de France du 17e siècle à l'époque de Racine, peut dire encore quelque chose à la fin du 20e siècle ou au début du 21e siècle aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est la force de la tragédie, c'est d'être une sorte de mythe qui traverse les siècles, qui s'adapte, qui a cette espèce de plasticité, qui dit à la fois toujours la même chose et en même temps des choses différentes selon les époques, les lieux, etc. etc. Et c'est ça, peut-être le génie du tragique, si je peux dire, c'est que vraiment, ces histoires-là sont universelles. Mais d'une certaine manière, c'est normal, parce que quand on lit des pièces de Sophocle aujourd'hui, elles continuent ou d'une manière générale, les mythes antiques continuent à nous parler de manière très pertinente, alors qu'on a 2500 ans qui nous séparent d'eux. Et donc, il y a comme ça une espèce de réactualisation complète. Mais ce qu'avaient fait d'ailleurs des auteurs français dans les années 30, hein, il y a tout un tas de dramaturges français dans les années 30 qui avaient repris des mythes antiques et qui les avaient adaptés à un moment qui était tragique pour eux, qui était juste l'avant-guerre. Et c'est bon, le fameux Antigone d'Anouilh qui est de 42, ou bien La Machine infernale de Cocteau, etc., qui sont dans cette décennie des années 30-40, où le récit tragique réussissait à dire la réalité d'un moment particulièrement tragique pour la France et pour l'Europe, qui était l'avant-guerre. La montée des totalitarismes, la catastrophe annoncée qui allait arriver, etc. Et je trouve que pour raconter ce changement d'époque qui a été la décennie 90, eh ben, du coup, ça fonctionne vachement bien aussi. Et ça fonctionne très naturellement, effectivement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de changer grand-chose, en fait. La structure dramatique permet aussi de raconter ça. Donc, c'est pas mal. L'idée, c'était quand même que ce ne soit pas une bande dessinée pour, bon, je sais pas, pour érudits ou pour des gens. Il faut qu'elle soit absolument, il faut que le récit soit lisible par tout le monde et que ce soit une sorte d'évidence.